Si tout le monde est bien installé, je vous propose qu'on commence. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à l'atelier qui est organisé par Actionable autour de la décarbonation. Pendant 45 minutes, on va aborder cette thématique à travers un angle un peu particulier, puisqu'on va partir du constat qu'on partage tous, j'espère, qui est très clair, qui est que nous sommes en retard, nous sommes très en retard collectivement sur la décarbonation pour atteindre les accords de Paris. Pour tenter de comprendre pourquoi c'est si difficile justement de passer d'une ambition qui est affichée à une action concrète et véritable en matière de décarbonation, pour essayer de comprendre finalement quels sont les freins et quelles sont éventuellement les bonnes pratiques, les solutions pour pallier ce problème-là, nous avons invité évidemment trois invités de marque, trois femmes engagées en faveur du développement durable, en particulier de la décarbonation au sein de leur entreprise. Et avant de les laisser se présenter, je tenais évidemment à les remercier chaleureusement pour leur disponibilité et évidemment la qualité des échanges qui vont suivre. À la fin de la séance, on a prévu 5 minutes de questions-réponses pour que vous puissiez poser vos questions éventuelles à ces trois invités. Peut-être Mélissa, je peux vous laisser vous présenter en premier.
Bonjour, donc je suis Mélissa Saint-Fort, directrice RSE du groupe TF1. Donc TF1, ce n'est pas que la chaîne TF1, c'est aussi toutes les chaînes de la TNT, TMC, TFX, TF1 Série Film, LCI et les chaînes payantes Histoire TV, TV Braise ou Choya, mais aussi des filiales type la scène musicale sur l'île Seguin, type Newen Studio, Newen France, qui sont en fait plein de petites filiales de production, de fiction et de flux et autres en France et dans le monde. Voilà.
Alors, je continue. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Lénaïque Pinault, directrice développement durable et qualité pour le groupe JC Deco. Donc, JC Deco, aujourd'hui, nous sommes présents dans 80 pays. Nous opérons des activités de médias, mais il faut savoir qu'en fait, nous opérons également de nombreuses infrastructures et de mobilier de services urbains, tels que l'abribus, mais aussi nous sommes présents dans les aéroports, dans les infrastructures ferroviaires et terrestres.
Et bonjour à tous et à toutes. Audrey Lambry, donc moi j'ai rejoint le groupe Euraseo il y a quelques 7 mois environ. Je reprends la stratégie durabilité et environnementale du groupe. Donc Euraseo, c'est un fonds d'investissement d'origine française qui est aujourd'hui diversifié. Parmi nos activités, nous avons ce qu'on appelle le private equity. Donc l'investissement, on dit qu'on investit dans l'économie réelle à travers l'investissement dans des entreprises de toute taille. Et particulièrement du non-coté. Donc voilà, c'est ce qui fait la spécificité de nos activités.
Merci beaucoup pour vos présentations. Je me permets également du coup de compléter. Je me présente, je suis Antoine Marotte, je suis consultant senior chez Actionable. Alors, peut-être très brièvement en introduction, qui est Actionable ? Nous, on est un cabinet de conseil d'une quarantaine de collaborateurs qui est certifié B Corp, et c'est très important pour nous de l'être. Et on a une mission très claire, c'est d'aider les entreprises à accélérer leur stratégie climatique. Et pour cela, on va travailler sur deux volets que vous connaissez sans doute, qui sont les deux volets du développement durable, en tout cas sur la partie environnementale. D'un côté, on a le volet qui est lié à l'atténuation, comment je réduis mes émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on accompagne nos clients de bout en bout, du bilan carbone jusqu'au plan de transition en passant par la définition d'une trajectoire de décarbonation. Et puis, un deuxième volet qui est lié à l'adaptation. On en entend parler souvent depuis maintenant une, deux, trois années, notamment auprès de nos politiques, c'est comment on aide nos entreprises à vivre dans un monde qui peut évoluer, qui peut se réchauffer et qui peut se réchauffer jusqu'à plus 4 degrés dans les pires conditions du GIEC à la fin de notre siècle. Donc pour ça, on utilise deux types de données. On va utiliser des données scientifiques, des données climatiques avec les scénarios du GIEC. Et puis on va coupler ces données-là à de la data science pour essayer d'aller projeter des risques climatiques dans le temps, à horizon 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour pouvoir mesurer l'impact d'un aléa climatique sur un asset industriel, sur un asset financier ou bien sur des éléments de la chaîne de valeur d'une entreprise. Alors peut-être en introduction, pour poser un petit peu le contexte de cette table ronde et poser le cadre autour de ces échanges, on va essayer de comprendre finalement pourquoi nous sommes, comme je le disais en introduction, en retard. Ce graphique, il nous montre deux choses. La première, c'est qu'il y a un écart entre les recommandations qui sont faites par le GIEC sur la décennie 2020-2030 pour tenir les accords de Paris. Et le GIEC nous dit quoi ? Il nous dit que les émissions doivent baisser drastiquement de 2% par an. La deuxième courbe que vous voyez à l'écran, ce sont les meilleurs élèves en matière de décarbonation. ce sont les prédictions de trajectoire de décarbonation des entreprises qui sont validées science-based target, donc alignées sur les accords de Paris, et qui pourraient, d'après une dernière étude qui est parue avant l'été 2023, pourraient réduire leurs émissions de 2%, non pas par an, mais sur l'ensemble de la décennie. Alors pourquoi c'est difficile de décarboner ? Pourquoi c'est difficile de concrétiser cette décarbonation ? Alors ici, on vous a mis un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'enjeux qui sont évidemment non exhaustifs, mais en tout cas, c'est des éléments qu'on remonte, nous, du terrain, chez les clients que nous accompagnons. Il y a un premier enjeu qui est lié à l'humain, qui me semble être l'enjeu, en tout cas à court terme, peut-être le plus important en matière de décarbonation, avec deux volets. Un premier volet autour de l'engagement interne qui est très compliqué à susciter, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les métiers, que ce soit un COMEX pour assurer le sponsorship de la démarche de décarbonation. Et puis, il y a évidemment une dépendance aux autres parties prenantes de notre chaîne de valeur. Faire de la décarbonation, c'est une approche holistique qui nécessite d'aller chercher auprès de ses fournisseurs et auprès de ses clients des éléments pour pouvoir activer des leviers de décarbonation. Il y a un deuxième élément, un deuxième gros enjeu qui est économique. Faire de la décarbonation, ce n'est pas une affaire d'une direction de développement durable dans son coin, avec quelques actions. C'est transformer structurellement son entreprise, transformer ses processus, transformer ses métiers. Et c'est également avoir le courage de ne serait-ce que challenger la relation linéaire qu'on connaît tous aujourd'hui entre la croissance économique et le carbone. Au mieux, cette relation, elle est complexe. Au pire, elle est irréconciliable. Donc, il y a un vrai enjeu de se poser ces questions-là aussi sur le carbone. Et puis, il y a un troisième enjeu qui est évidemment opérationnel, et ça, on le voit tous les jours chez nos clients, qui est double. Un enjeu, évidemment, de méthodologie. La comptabilité carbone, on le sait tous, ce n'est pas une science exacte. Et donc, il y a des méthodologies qui évoluent. Il faut prendre en compte l'évolution de ces méthodologies pour fiabiliser un petit peu la comptabilité carbone. Et puis, il y a un deuxième enjeu, un deuxième volet lié à l'opérationnel, qui est un sujet de données. La donnée, elle est fragmentée, elle est isolée, elle est difficile d'accès. Et donc, on va voir par la suite que il y a peut-être des solutions, notamment la technologie, pour aider justement sur ces enjeux opérationnels-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est le constat, ce sont les enjeux, ce sont les freins, les difficultés, mais il faut pouvoir trouver des solutions. Nous, chez Actionnable, on pense qu'une partie de la solution, c'est la technologie. Cette technologie-là, elle va prendre différentes formes, elle va être protéiforme. Alors ici, on vous a mis un panel des différentes formes que peut prendre la technologie. Il y a une première forme qui est ce qu'on appelle les Carbon Management System, les CMS. Alors ça, ce sont des solutions, des logiciels, des SaaS, si on veut parler un petit peu technique, qui se sont développés chacun. Alors ils se ressemblent plus ou moins, mais ils se sont développés autour d'une verticale métier, ils se sont développés autour d'un secteur d'activité, ils sont plutôt spécialisés pour les grandes, les petites, les moyennes entreprises. Et puis, ils ont des couvertures plus ou moins large en matière de décarbonation. C'est soit le bilan carbone, soit la trajectoire, soit le plan de transition, voire même, ils commencent à travailler sur des sujets de CSRD, de réglementation, de reporting, etc. Donc ça, c'est le premier élément. Vous connaissez sans doute, vous avez à l'écran des sweeps, des deep keys, des traces, des softs, etc. Vous avez une deuxième forme que prend la technologie, c'est évidemment la base de données. Cette base de données-là, elle est très importante pour aller collecter ce qu'on appelle des facteurs d'émission pour convertir concrètement du carbone, enfin des données d'activité en émission carbone. Et donc ces bases de données, que ce soit le CDP, l'INIES pour le bâtiment, la base empreinte, Carbon Mines, etc., elles se sont aussi développées sur des caractéristiques bien différentes et elles se sont techifiées aussi. Preuve en est, la dernière mise à jour de la base, enfin l'ex-base empreinte, qui a élargi son scope carbone et son scope environnemental de manière large. Il y a une troisième forme que prend cette technologie, c'est ce qu'on appelle les ERP, Enterprise Resource Planning, qui ont révolutionné les systèmes d'information et la manière de collecter de la donnée au début des années 2000. Et bien ces ERP, que vous connaissez tous, SAP, Oracle, qu'on connaît bien, et bien eux, ils ont développé des briques carbone et ils ont travaillé ce sujet-là, à tel point que leur ambition, il me semble, c'est de faire demain le carbone une devise au même titre que le dollar, la livre sterling ou l'euro sont une devise de l'entreprise. Et puis, il y a une quatrième forme que peut prendre la technologie, c'est ce qu'on essaye de faire aussi chez Actionnable, c'est ce que j'ai appelé la custom technology, c'est-à-dire essayer de développer, en prenant des Lego technologiques des grands cloud providers et autres, d'essayer de développer une technologie qui soit vraiment adaptée aux besoins du client, pas forcément sur étagère, et qui soit vraiment ad hoc pour le client. Alors, c'est important qu'on se rappelle tous et qu'on garde à l'esprit, que cette technologie-là, elle ne peut pas et elle ne doit pas être l'alpha et l'oméga d'une stratégie de décarbonation. Ce n'est pas possible. Donc nous, on a une position qui est très claire chez Actionable. Oui, la technologie fait partie de notre ADN. C'est ce qui nous anime. C'est l'innovation, c'est la technologie. Par contre, on est technolucide. On se déclare, en tout cas, technolucide. Et en se rappelant que cette technologie, elle peut aider à collecter de la donnée. Elle peut aider à fiabiliser. Ça va être un gros enjeu dans les années à venir, fiabiliser cette mesure carbone. Elle peut aider à piloter un plan de trajectoire des courbes de décarbonation. Elle peut aider, évidemment, à quantifier les efforts de réduction, etc. Par contre, la technologie, elle ne peut pas, en tout cas pas entièrement, engager, responsabiliser nos collaborateurs pour les amener sur ce terrain-là, pour transformer leur métier au quotidien. Elle ne pourra pas, à la place de nos collaborateurs et de nos métiers, déployer des actions opérationnelles très concrètes pour faire en sorte qu'on pollue moins, très concrètement. Et elle pourra encore moins faire preuve de courage pour challenger des business models et pour aller vers des modèles d'affaires qui soient respectueux des limites planétaires avec des offres durables, etc. Donc voilà en quelques mots la petite introduction que je souhaitais faire aujourd'hui pour pouvoir planter un peu le cadre de cette table ronde. Donc maintenant, je vais arrêter de parler évidemment. Je vais laisser la parole à nos trois invités de marque pour leur poser un certain nombre évidemment de questions sur tous ces enjeux liés à la décarbonation. Donc peut-être pour commencer, alors j'ai peut-être une première question qui me vient en tête. C'est pour vous, Mélissa. Quand on est un groupe comme TF1, qui est un groupe média où on se dit, en tout cas d'extérieur, que ce n'est pas une industrie ou un secteur très carbone intensif. Pourquoi c'est très important pour le groupe TF1 de accélérer sur sa décarbonation?
C'est important pour plein de raisons. La première, c'est qu'on est un groupe média leader en France depuis des années et qui touche quasiment tous les Français depuis toujours. Donc on ne peut pas se permettre, par rapport au rôle en fait, d'influence qu'on a sur la population française, sur les industries aussi françaises qui sont annonceurs en fait, chez nous à la régie pub, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir nos propres engagements et de ne pas les tenir, alors que c'est ce qu'on va aller relayer dans nos JT, c'est ce qu'on va aller relayer aussi dans nos rendez-vous avec nos annonceurs et autres. On ne peut pas parler de transition écologique si nous-mêmes, on ne s'y met pas. Et puis, on ne peut pas ne pas sensibiliser les téléspectateurs à des modes de consommation plus durables, à tout le changement climatique en fait, qui a lieu en ce moment. Donc, si en fait on les sensibilise à tout ça, mais que nous-mêmes, quelque part, on ne s'en occupait pas, ça serait quand même assez hypocrite et pas très cohérent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, basiquement, on est un groupe coté, et un groupe qui appartient aussi au groupe Bouygues, qui, lui, a fortement accéléré sa trajectoire de décarbonation et qui y croit vraiment. Et en fait, eux, ils sont vraiment sur une transformation colossale de leur modèle d'affaires et de leur cœur business, qui est beaucoup plus construction, béton et autres que TF1. Mais de fait, ils embarquent toutes leurs filiales dedans. Et c'est pareil, on a besoin d'être cohérent au niveau du groupe et vis-à-vis de nos actionnaires et nos investisseurs qui nous posent de plus en plus de questions aussi sur ces sujets-là. Et on ne peut plus, en fait, faire autrement. Et donc, en tant que grande entreprise française cotée, on se doit de prendre des engagements conformes aux accords de Paris et autres. Et donc là, on est en train de se faire certifier SBTI pour confirmer notre engagement de faire moins 30% de CO2 sur notre bilan carbone d'ici 2030.
Voilà. Ok, très clair. Et vous, JC Deco, qui êtes numéro un mondial de la communication extérieure et du mobilier urbain, on a demandé à TF1 pourquoi est-ce important, mais vous, quelle est votre ambition? Du coup, on comprend que, de par votre caractère industriel, que ça semble important, mais du coup, quelle est votre ambition à plus ou moins long terme sur ce sujet-là?
Alors nous, notre ambition, on a décidé de l'inscrire vraiment dans l'histoire de la société, puisqu'en fait, on est une entreprise française créée en 1964 par Monsieur Jean-Claude Decaux, avec une idée, c'est la sobriété. Et en fait, il n'avait pas le choix, il n'avait pas suffisamment d'argent pour gaspiller. Donc dès le début, l'excellence dans l'exécution et la réduction des coûts, c'était au cœur de notre business model. Donc ça voulait dire aussi les réductions de consommation énergétique. Et ainsi, on a constaté qu'en 10 ans, entre 2022 et 2012, on a réduit de 83% nos consommations énergétiques et sur l'ensemble de nos émissions scope 1 et 2, nos émissions carbone. Donc on a déjà mis en place un certain nombre d'actions. Alors je pourrais passer la soirée à vous détailler tout ça, mais surtout, ce qui a été important pour nous, c'est de se dire on est déjà bien ancré sur les émissions de nos opérations, là on a la main. Maintenant, il faut accélérer. Donc, on a décidé de lancer une stratégie climat ambitieuse qui s'articule autour de trois étapes. Mesurer, puisque ce qui n'est pas mesuré n'existe pas. Réduire, c'est notre priorité. et ensuite contribuer au-delà de notre chaîne de valeur pour soutenir des projets de décarbonation au-delà de l'entreprise. Mais le cœur du réacteur, c'est vraiment la réduction. Et donc, nous aussi, on a voulu s'inscrire dans une démarche rigoureuse, alignée avec l'accord de Paris. On suit les guidelines SBTI. SBTI, c'est les Science-Based Target Initiative. C'est un peu le summum quand on parle de climat. C'est aujourd'hui la seule organisation de référence qui fait foi. Donc, on va déposer notre stratégie dans les semaines à venir. Notre trajectoire, elle s'inscrit en deux temps. Moins 50% sur le scope 1, 2, 3 à horizon 2030, parce qu'il faut un point d'étape rapidement, et moins 90% à horizon 2050 pour viser le net zéro selon le SBTI.
Alors, en introduction, on a parlé ensemble des enjeux, des freins, et on a parlé notamment de l'enjeu de la conduite du changement et de l'humain. Alors, j'ai une question assez naturelle qui me vient à l'esprit pour Euraseo. Vous qui êtes un grand fonds d'investissement où il y a donc des centaines de participations qui sont en première ligne du coup de vos équipes d'investissement, quels sont les plus gros défis pour embarquer justement et convaincre ces équipes d'investissement d'aller taper à la porte de leur participation pour les décarboner?
Ouais, c'est une bonne question. En fait, c'est vrai que le modèle de fonds d'investissement est déjà atypique dans le sens où on a évidemment une stratégie de décarbonation pour nous-mêmes, le groupe Euraseo, mais il faut comprendre que 99,7% du bilan carbone d'Euraseo, il vient des investissements qu'on fait dans les sociétés qu'on possède dans le portefeuille. Et donc, on va avoir des sociétés, enfin des équipes d'investissement qui sont dédiées, spécialisées, qui sont en charge de vraiment identifier et travailler avec ces portfolio compagnies. Parce que quand on investit, on les accompagne quand même pendant 5 à 7 ans. Et chez Euraseo, on a pris c'est vraiment au cœur de la stratégie du groupe et même de son ADN de dire on a une responsabilité quand on investit dans une société. Déjà, on choisit dans quoi on investit, mais surtout la condition pour pouvoir être accompagné par Euraseo et rentrer dans le portefeuille, c'est de s'engager sur un chemin de progrès en matière d'ESG, donc environnement, social, gouvernance. On va avoir ce qui est la base de l'ESG quand les groupes n'en ont pas, et on va avoir aujourd'hui, on accélère énormément sur la question du carbone et du climat, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir sur pourquoi. Et donc, comment on fait pour accélérer? Vous comprenez que nous, on doit engager nos équipes d'investissement qui sont elles-mêmes en lien direct avec les portfolio companies, tout le temps, tous les mois, tous les jours, pendant 7 ans. Et on doit embarquer aussi les portfolio companies. Et donc, je pense qu'il y a 3 leviers qu'on met en œuvre, nous. La première, déjà, c'est de susciter l'envie d'agir. Ça paraît bête, dit comme ça, mais ce n'est pas du tout un acquis pour tout le monde. Le carbone, la décarbonation, ça reste encore un mot, j'allais dire gros mot, enfin, c'est quand même un mot qui fait encore un peu peur. Parce qu'il faut se dire qu'on a des grands groupes, mais on peut avoir aussi des toutes petites startups dans le portefeuille. Donc, susciter l'envie d'agir, c'est déjà la première des choses. Comment on suscite l'envie d'agir? Je pense que c'est en démystifiant le mot et en le replaçant déjà dans un contexte. Qu'est-ce que c'est décarboner? Le carbone, c'est de la réglementation, c'est des OPEX, c'est des économies de coûts, c'est de la performance, c'est du sens. Voilà, donc le replacer dans son contexte en risque et en opportunité, je vous donne un petit exemple, mais... dans les sociétés du portefeuille, on en a deux dont les clients finaux leur ont dit écoutez, nous-mêmes, nous sommes engagés SBTI ou alignement accord de Paris. Si d'ici 2025 et 2026, respectivement, vous n'avez pas vous-même mis en place une stratégie de décarbonation ambitieuse et validée, vous serez déréférencés. Alors voilà, ça c'est le genre d'histoire qui fait peur, mais qu'on aime aussi partager. Et on aime aussi partager des histoires qui sont concrètes et qui sont... qui donne de l'espoir et qui donne envie. Et je dirais la deuxième chose, et c'est pareil, ça peut paraître bête, mais c'est personne n'aime être mis à défaut dans un sujet qu'il ne connaît pas. Et la première des choses à faire pour susciter l'envie d'agir, c'est de vaincre l'envie de ne pas agir, ou c'est plutôt de vaincre l'aversion au changement. Et en fait, le fait de de rendre les choses concrètes, de donner les bases, d'informer, de sensibiliser et d'accompagner, ça permet aux personnes de monter en compétence. Et quand on est en compétence, alors on se sent beaucoup plus willing to act, alors que lorsqu'on ne connaît pas le sujet duquel on traite, on se sent en défaut. Donc je pense que c'est des petites choses, ça paraît petit, ça prend en fait beaucoup de temps, et ça commence par là. Et je dirais peut-être la deuxième grande famille de choses qu'on peut faire quand on veut accélérer, c'est évidemment de faciliter l'engagement dans la décarbonation. Comment on facilite la chose? Donc chez Euraseo, on s'est dit, nous-mêmes, on a pris nos engagements. On l'a dit à tous nos portfolio companies. Il y a un an, on a envoyé, notre CEO a envoyé une lettre à tous les CEO de toutes les entreprises du portefeuille en annonçant qu'on était engagés et qu'on souhaitait qu'elles s'engagent avec nous. Pour autant, ça a mis du temps. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de construire un programme de décarbonation, notamment avec Actionnable. Et donc, voilà, on pourra en reparler plus en détail, mais c'est des outils, des choses qui sont clés en main pour réduire la complexité et rendre ça en fait, très pragmatico-pragmatique et surtout susciter la confiance. C'est-à-dire que c'est possible d'y aller puisque c'est clé en main.
Merci Audrey, très clair. Sur cette même thématique, donc là on a vu l'engagement des métiers, des collaborateurs. Moi j'ai envie de poser une question à vous Mélissa, qui êtes fraîchement arrivée chez, en tout cas ce poste de la direction RSE, avec un contexte un peu particulier puisque le COMEX, enfin, une nouvelle équipe dirigeante chez TF1 est aussi arrivée. Alors comment on fait avec une nouvelle équipe dirigeante pour assurer le sponsorship de la démarche? Parfois c'est un peu compliqué.
Et bah, du coup, on repart presque de zéro, mais c'est pas plus mal. En fait, chez TF1, la direction RSE existe depuis 2007 et le premier bilan carbone date déjà de 2007. Donc en soi, on était presque précurseurs. Par contre, la réalité, c'est que c'était de toutes petites équipes assez peu visibles et que c'était considéré comme un exercice de reporting obligatoire d'avoir un tableau de bilan carbone qui sortait chaque année dans nos déclarations officielles, mais ça s'arrêtait un peu là. Et effectivement, changement de PDG, donc Rodolphe Belmer, septembre dernier, changement de DGA aussi, RHRSE, etc., mon arrivée. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était pas du tout tous au même niveau de compréhension du sujet, ni au même... Je n'arrivais pas à forcément savoir quelle était la sensibilité des uns et des autres sur le sujet. Et je me suis dit, en fait, il faut refaire de la pédagogie, il faut repartir de zéro. Donc je suis vraiment repartie les voir en leur disant, OK, c'est quoi un bilan carbone? Qu'est-ce qu'il y a chez nous dedans? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, un groupe média... C'est quoi son bilan carbone? C'est pas juste la tour TF1 et le plateau du JT. C'est énormément de fournisseurs externes à qui on va acheter des productions de contenu, à qui on va acheter du matériel technique, etc. Et donc de réexpliquer tout ça et de montrer à chaque membre COMEX presque combien il pesait dans ce bilan carbone et quelles étaient les grandes activités et qu'on n'avait pas le choix. On devait faire moins 30. Donc en fait, ils étaient tous concernés. Et à partir du moment où c'est venu d'en haut et que j'avais embarqué en fait notre PDG et qu'il avait compris la trajectoire et qu'on n'avait pas le choix, finalement, tous les sujets que j'avais un peu au départ, qui était « mais la donnée, elle n'est pas fiable, elle est mal estimée. » C'est beaucoup de données financières, finalement, qui sont transposées avec des facteurs d'émission un peu faux, de CO2. Donc, en fait, ton moins 30%, on ne sait pas d'où on part. Donc... Oui, mais non, en fait, dans tous les cas, nos trois chantiers d'action, c'est ceux-là, les coproductions, la sobriété numérique, les achats, etc. Et peu importe à 10% près si le chiffre est faux, les trois chantiers sont ceux-là. Et donc, vous êtes tous concernés par ça, ça, ça. Et à partir du moment où il avait dit ça, en COMEX, on avait la feuille de route pour chacun. Donc ça a été l'avantage, je pense, peut-être de sa nouvelle arrivée et de la mienne, mais c'est vrai que ça a été assez dur au début parce qu'il y avait un choc de culture très clair sur des PDG comme ça, ils sont très financiers. Et donc pour eux, les chiffres pas exacts, c'est terrible. Donc ça a été très dur au départ.
Ok, très clair. On voit bien que cet enjeu humain, hein, il est prépondérant à une, en tout cas, je ne sais pas si c'est un démarrage, mais une accélération de la stratégie de décarbonation, et que tant qu'on n'a pas convaincu, les gens, on ne pourra pas, véritablement accélérer. Alors si on passe maintenant de thématique, si on s'intéresse un petit peu à la partie outillage, et notamment la partie technologique, vous, JC Deco, vous avez sans doute un gros sujet autour de vos mobiliers urbains. Est-ce que vous utilisez justement cette technologie? Est-ce que vous en avez déjà fait l'expérience? Et qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça?
Alors effectivement, la technologie, elle est clé pour la mesure, on vient d'en parler. Il faut fiabiliser cette donnée-là. Et effectivement, nous, on opère dans plus de 3000 villes. Dans une ville, on peut avoir deux mobiliers comme 6000. Donc imaginez le nombre de données que je dois consolider et récolter pour à la fin avoir un bilan carbone. Et on est présent dans 80 pays, avec des acquisitions qui se sont faites sur 60 ans, des petites entreprises, des grosses structures, donc... un système IT assez sympathique à gérer puisqu'il n'est pas uniforme. Tant en ERP finance qu'en consommation énergétique, qu'en bulletin de paye. Donc moi, j'ai des données de partout différentes. Donc oui, j'ai un vaste chantier devant moi, effectivement. C'est déjà de construire cette arborescence de tous mes outils et de comprendre qui est le owner de cette data-là. Parce qu'en fait, les outils sont un vrai accélérateur, mais c'est surtout, moi, mon premier constat, c'est... Mais quel bordel! Mais il n'y a pas de gouvernance de la data. Enfin, excusez-moi pour le langage, mais c'est hyper compliqué à gérer. Donc, on a un agrégat de multitudes de données et donc on a fait des choix. Maintenant, il faut évidemment structurer, hiérarchiser. Donc, par exemple, on a décidé de déployer DeepKey, dans un certain nombre de pays. On a commencé par un pilote dans un pays, puis maintenant on est sur le haut niveau européen. Après, il y a des demandes maintenant, et ça c'est génial, de filiales qui viennent nous voir en nous disant « mais oui, mais moi aussi je veux accélérer ma transition, je veux fiabiliser mes consos ». Donc on a continué à accélérer dans ce sens-là. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant, parce que ça, c'est qu'une petite partie, ce sont les consommations énergétiques. Alors certes, chez moi, ça pèse lourd, mais 90% de mes émissions, c'est mon scope 3, comme la plupart des entreprises, vu que j'ai bien fait mon travail sur mon scope 1 et mon scope 2. Donc maintenant, ça va être les fournisseurs. Et là, les fournisseurs, bah, c'est encore plus complexe, parce que les fournisseurs, comme tout le monde, j'en ai plus de 10 000 à travers le monde, donc il va falloir les embarquer, c'est de la conduite du changement. Un outil va m'aider à collecter la donnée, mais avant, il y a de l'intelligence humaine, de la relation humaine, et c'est exactement ce que vous disiez en introduction, l'outil ne fait pas tout. Donc il faut vraiment, et nous c'est vraiment notre conviction, c'est construire une vision, identifier une gouvernance clé et déployer les bons outils dans un univers global cohérent. Et donc tout ça, ça se fait de façon transversale avec l'ensemble des fonctions, parce qu'on a tous de la donnée au niveau des RH, de la finance, des achats et des opérations. Donc c'est vraiment un projet transversal qui permet de se reposer, de se rechallenger et de questionner le statu quo et de consolider nos partis pris.
Justement, sur ce sujet, c'est très intéressant ce que vous dites, puisque Euraseo, sur le sujet de la gouvernance et le fait d'être capable de remonter, on imagine, des données carbone liées à toutes ces participations qui sont éparpillées. Est-ce que vous, Euraseo, vous utilisez éventuellement la technologie, éventuellement un CMS, est-ce que vous le déployez sur vos participations et comment ça vous permet de remonter peut-être à terme des données très fiables sur le carbone ?
Alors effectivement, nous, on a le même sujet. Et au-delà de la fiabilité des données, je pense qu'il y avait un enjeu aussi de rendre vivant le bilan carbone. Très honnêtement, un bilan carbone qui serait stocké dans un fichier Excel avec 125 onglets, personne ne le réouvrira jamais. La mise à jour sera pas forcément compliquée, sauf pour les fans d'Excel. Nous existons, mais nous sommes peu nombreux. Et surtout, au-delà de l'actualisation, voilà, c'est comment on le fait vivre et comment on décarbone. Je pense qu'un fichier Excel, c'est quand même compliqué à faire vivre et c'est compliqué de convaincre. Donc, pour le coup, nous, les outils, on les utilise certes pour faciliter la collecte de données. Alors, donc, on a choisi, aujourd'hui, on travaille avec DeepKey, on travaille avec Sweep sur les portfolio companies, donc les entreprises. À l'origine, c'est une solution qui nous a été remontée par des entreprises du portefeuille elles-mêmes et qu'on a ensuite testé nous-mêmes et poussé sans vraiment trop savoir. C'était un petit peu les débuts. Je pense que c'est vraiment des outils qui sont précieux. Alors déjà, il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Ils ont tous une spécificité et c'est pas pour rien. Donc avant de commencer à prendre un outil, il faut savoir ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas et choisir déjà le bon. Et peut-être pour revenir sur ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas... ces outils-là sont pas des solutions miracles. Par contre, ils peuvent être extrêmement efficients à condition d'être utilisés pour la bonne raison et de la bonne façon. Donc, continuer sur l'exercice de ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas. Ce qu'ils ne sont pas, donc pas c'est pas une solution miracle. Ils permettent vraiment de faciliter la collecte de la donnée. Ils permettent vraiment d'automatiser les calculs, de faciliter l'automatisation ou la mise à jour des calculs. Ils sont vraiment des grandes références de facteurs d'émissions. C'est des banques de données de facteurs d'émissions. Et l'intérêt, c'est qu'au lieu que vous-même vous allez chercher beaucoup de banques différentes et en plus avec des spécificités sur des pays différents, là vous les avez tous et ils sont tout le temps à jour. Et la fonctionnalité intéressante, c'est aussi la data vise, encore une fois pour faire vivre, implémenter une vraie trajectoire, la faire vivre et la suivre. Et puis tout ce qui est aussi connectivité en API, souvent ces plateformes-là vous offrent ça et donc ça facilite la mise à jour, l'actualisation. Ce qu'elles ne sont pas, elles ne remplaceront jamais un expert carbone. Et ça, il faut vraiment qu'on se le dise, parce qu'il y a eu quand même une très grande effervescence quand toutes ces plateformes-là ont émergé, il y a 2-3 ans à peu près. Et donc, la promesse qu'elles faisaient, c'était rendre le bilan carbone accessible, facile et rapide. Et en fait, je pense qu'elles en reviennent toutes aujourd'hui, et elles ont réaffirmé aussi ce qu'elles étaient et ce qu'elles n'étaient pas. Donc, je le redis, ça ne remplace pas un expert carbone, c'est-à-dire que vous pouvez faire votre bilan carbone tout seul, mais en fait, qu'est-ce qui vous dit que vous avez utilisé les bons facteurs ? Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes représentatif ? Qu'est-ce qui vous dit que... rien. Et donc, encore une fois, je pense que faire l'effort de s'associer avec un expert carbone pour faire son bilan carbone, c'est la première des choses.
Vous nous faites un peu de pub.
Oui, bah voilà. Alors effectivement, nous on a choisi Axiona, mais on a plusieurs partenaires qui travaillent avec nous. On a aussi des sociétés qui choisissent de travailler avec leurs propres partenaires. Elles ont déjà commencé. Donc voilà, utiliser. C'est vraiment un avion de chasse, je pense, mais fourni sans pilote, ça marche moins bien. Donc encore une fois, pour que ce soit des outils qui soient performants, les associer avec, enfin garder l'expertise carbone. Je pense qu'il y a un deuxième point qui serait y dédier du temps. Ces outils sont aussi complexes, c'est ce qui en fait leur beauté, mais leur difficulté, enfin voilà, l'écueil si on ne fait pas attention. Dédier du temps pour se l'approprier, dédier du temps pour bien le paramétrer, dédier du temps pour le faire vivre en interne. Encore une fois, c'est une plateforme de plus, si vous la laissez dans un coin et que personne l'ouvre. Voilà. Et la troisième chose, donc, c'est vraiment voilà, consacrer les bonnes ressources et puis le faire vivre. Nous, l'idée qu'on a aussi pour que ça marche et que ça serve, c'est d'utiliser un peu les sorties de ces outils-là pour les insérer dans les routines de pilotage, pour qu'on s'oblige à les mettre à jour et on s'oblige à s'en servir. Sinon, finalement, vous aurez fait un super effort et un super exercice au début et puis vous l'aurez laissé là et vous ne piloterez pas la décarbe. Et pardon, mais j'ajoute, on parlait d'expertise pour faire l'empreinte carbone, mais en fait, c'est aussi des outils qui peuvent vous permettre d'écrire et de suivre votre trajectoire, mais à condition qu'il y ait quelqu'un, encore une fois, avec de l'expertise pour aller vous la calculer selon des méthodologies de référence reconnues avec tampon. Ça ne remplace pas un plan d'action, et c'est pareil, il faut se faire accompagner pour avoir un vrai plan d'action qui tienne la route.
Merci beaucoup. Alors, on a parlé depuis le départ de vision, d'ambition, de conduite du changement, de technologie. Moi, j'ai envie de vous poser une question à toutes les trois qui est assez simple. Concrètement, on en est où dans chacune de vos entreprises aujourd'hui sur le carbone, sur la décarbonation? À quelle étape, si on considère la décarbonation comme un parcours, à quelle étape on est? Et quel est votre prochain jalon, grand jalon finalement, sur cette route qu'est la décarbonation? Qui veut commencer? Mélissa?
Nous, je dirais qu'on en est... Alors, si je dis qu'on en est au début, ce n'est pas très juste pour ceux qui ont fait tous les efforts dont tu parlais tout à l'heure, par exemple sur les scopes 1 et 2, où on a aussi réduit ne serait-ce que de 35% nos consommations énergétiques en plus de 10 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites déjà chez nous sur les sujets qui ne sont pas les plus impactants en termes de volume de CO2, mais en termes d'image, c'est-à-dire tous les sujets de mobilité. Donc, électrifier le parking, passer nos voitures de fonction en voiture électrique, réduire les trajets en avion, les passer en train. Enfin, tout ça, ça a été fait quand même assez tôt chez TF1. Pareil sur le chantier de sobriété énergétique, on a rénové le bâtiment, on a mis des panneaux photovoltaïques, enfin, toutes ces choses-là ont été faites depuis plusieurs années. Mais on s'est rendu compte que ça pesait très peu. Et en fait, sur les grands sujets donc d'éco-production, de sobriété numérique, d'achat responsable, achat tech, etc., je dirais qu'on en est en année 1. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont démarré fin d'année dernière. Le sujet a été pris par pas mal de référents qu'on a en interne parce qu'il y a des gens qui sont convaincus par le sujet depuis bien avant mon arrivée. Et néanmoins, c'est vrai que ce n'était pas forcément structuré et que ce n'était pas priorisé parce qu'il n'y avait pas forcément de mesures, parce qu'il n'y avait pas d'objectifs et de KPI fixés par les managers de ces personnes-là. Donc là, ça y est, on structure les objectifs, les feuilles de route et la mesure. Et donc, sans vous faire de pub, on travaille avec vous depuis un moment sur le bilan, mais vous allez nous aider à intégrer SWIP, qui va être notre outil aussi. Voilà. On en attend beaucoup de cet outil. Alors, tout ce que vous disiez était intéressant, c'est que ça va nous aider quand même parce que c'est vrai que pour des membres COMEX notamment, et pour responsabiliser aussi tous les responsables opérationnels, c'est important de leur montrer des dashboards avec des mesures, des trajectoires, des objectifs, parce que sinon, il ne se passe rien. En fait, si on dit qu'il faut faire de l'éco-production, éco-produire the voice, ça veut dire quoi? Concrètement, personne ne sait répondre à la question, et comment je le suis dans un tableau, et voilà. Donc, ces outils-là vont quand même nous aider au moins à pouvoir le piloter, à le montrer, à faire plus de pédagogie, d'être un peu plus ludique même en interne pour qu'au global, tous les collaborateurs comprennent. Et donc là, on est en train de trouver vraiment des KPI précis pour aussi les réimpacter sur nos fournisseurs parce que plus de 60% de notre bilan en fait, vient de choses qu'on va acheter à des gens, notamment nos productions d'émissions phares. Je prends l'exemple de The Voice, mais en fait, tout le monde pense que c'est nous, mais on ne le produit pas, on l'achète à un producteur. Comment on impacte cette stratégie-là sur parfois des petits producteurs qui sont eux-mêmes des petites PME plus ou moins artisanales? Comment on ose s'engager, mettre ça dans... Donc on a mis des clauses contractuelles d'éco-production dans nos contrats de prod, on a mis des clauses d'éco-responsabilité aussi, des clauses carbone dans tous nos contrats d'achat. Enfin voilà, c'est des choses, je dirais qu'on en est à l'année 1 et là on est vraiment en phase d'accélération très forte parce que dès 2024, déjà il faut savoir que toutes les personnes qui ont une part variable chez TF1 ont un objectif RSE quanti et quali. Donc on a un bonus à l'intéressement aussi sur des critères RSE. Donc même d'un point de vue financier, c'est un truc qui est pris de manière très, très sérieuse dans la boîte depuis l'année dernière. Sauf que là, on accélère vraiment. Notre prochain jalon, je dirais, c'est Je pense que la bascule qu'on va réussir à faire avec un peu toute cette chaîne de fournisseurs, c'est-à-dire que nous, on a bien compris l'enjeu, on a compris par où on devait commencer. Maintenant, à quelle vitesse tous ces fournisseurs-là vont accepter de nous suivre et vont y arriver. Ça, ça va être un peu l'enjeu. Et c'est toutes ces histoires, effectivement, de données, de facteurs d'émission, où on a vraiment besoin d'avoir nos propres échantillons, nos propres données physiques, fiabilisées un peu plus, parce que là, c'est vrai que ça reste encore assez flou.
Ouais. Très clair. Plein de belles choses à venir. Audrey, peut-être ?
Chez Euraso, je pense qu'on est aussi... déjà, nous, il faut distinguer du coup, le groupe et le portefeuille. Du point de vue du groupe, on est engagé à SBTI, donc depuis, on était les premiers acteurs du private equity à se lancer dans la démarche. On a donc notre stratégie et nos objectifs qui sont validés par le SBTI. On a déjà fait, Scope 1 et 2, pas mal d'actions, un peu comme vous. 54% de réduction des émissions nettes sur Scope 1 et 2, et on est passé à 80% d'énergie renouvelable alors qu'on était à 9% en 2017. Voilà, l'idée, c'est d'accélérer sur le Scope 3. Hein. Encore une fois, c'est aussi le plus dur, notamment avec l'engagement pour tout ce qui est fournisseur. Nous, on voudrait là commencer, pareil, faire partir une lettre en disant où est-ce que vous en êtes. On veut vous donner réel, déjà de demander les données réelles carbone de nos fournisseurs et commencer à voir comment on y travaille ensemble, qu'est-ce qui est prévu. Voilà, ne serait-ce que poser la question en année 1, c'est un bon début. L'année 2, c'est de réaffirmer qu'en fait, nous, on avance et qu'il va falloir qu'ils avancent avec nous. Et on n'aura pas la même façon de travailler avec les gros et les petits. Et selon aussi que ce sont des fournisseurs, on va dire, avec des choses physiques ou des fournisseurs type, on ne va pas se mentir, dans le private equity, on consomme beaucoup de conseils financiers, conseils juridiques, lawyers, banquiers, etc. Donc on n'a pas la même pression et on ne travaille pas de la même façon avec eux. Donc ça, c'est la partie Euraseo. Et sur la partie portefeuille, donc là on est vraiment je pense en phase d'accélération. On a déjà des sociétés qui sont bien avancées, on a des sociétés qui sont elles-mêmes SBTI. L'objectif c'est que d'ici 2030, 100% des sociétés éligibles soient elles-mêmes SBTI. Donc en fait, l'ambition de Raseo maintenant c'est certes d'accélérer sur le portefeuille, mais finalement c'est presque, j'allais dire, de ruisseler partout où nous avons une influence, donc on l'a dit sur notre scope 3 et sur nos sociétés portefeuilles. Et je pense que là ça s'accélère, d'où le programme. Et ce qui est important aussi, c'est finalement Raseo, en étant une société d'investissement, on est connecté un petit peu partout à l'économie, on est connecté à ce qu'on appelle des LPs, donc c'est les gens qui nous donnent de l'argent à investir pour leur compte. Par exemple, en insérant les résultats carbone et les indicateurs carbone dans les reportings mensuels, trimestriels, annuels, je pense qu'on joue aussi notre rôle de sensibiliser et de rendre la donnée carbone et de rendre le chemin de progrès visible, mais aussi important, de le mettre à la même hauteur que le résultat financier. De la même façon qu'on va le faire dans les meetings de pilotage de nos portefeuilles, enfin de nos sociétés en portefeuille. On les voit vraiment toutes les semaines, à tous les mois. On a des boards tous les mois. Et le carbone, il doit être au même endroit que le reste. Voilà. Et donc, c'est vraiment diffuser pour les sociétés, accélérer avec elles, diffuser avec nos équipes d'invest. Nous, on a un gros enjeu aussi à les embarquer et à les acculturer et les rendre honneurs du sujet pour qu'à terme, un jour, le carbone, ce ne soit plus l'ESG qui le pilote ou qui le copilote avec eux, mais que ce soit eux qui le pilotent, mais comme un indicateur de base de performance, et que nous, on puisse s'atteler à d'autres sujets, parce que vous savez comme moi qu'on en a d'autres.
Très clair. Et puis peut-être pour clôturer, vous, Lénaïque, vous nous avez distillé quelques petites pistes, en tout cas en introduction, et peut-être vous pouvez nous rappeler un petit peu où vous en êtes, et puis du coup, ce prochain jalon.
Alors, beaucoup de similitudes avec mes pairs et heureusement, on a fiabilisé la mesure, on a identifié les chantiers principaux et effectivement, le scope 1 et le scope 2, c'est plus forcément nos axes principaux de travail. Maintenant, ça va être le scope 3. Je vous rejoins sur les fournisseurs, mais pour vous donner aussi une autre vision de ce qu'on peut faire, nous, on travaille avec les clients. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que là, on n'a pas le même pouvoir de négociation avec eux. Et donc, moi, qui sont mes clients, j'ai mes mandants, donc ceux à qui je vends mes mobiliers et mes services. Donc, ça va être les autorités publiques, les autorités aéroportuaires, les sociétés de transport privé, mais aussi les annonceurs. Et donc, aujourd'hui, par exemple, moi, les mobiliers, je le sais, il faut que je décarbone mes mobiliers. Donc, concrètement, un abribus, c'est par exemple 3 000 tonnes. Et donc, j'arrive avec des solutions, avec de l'aluminium recyclé, avec un abri bus qui consomme du bois. Et donc, avec un nouveau design, j'arrive à réduire de 50% mes émissions carbone. Autre solution, un abri bus reconditionner. Et oui, hein, ça ne marche pas que pour les téléphones et les appareils électroménagers. On peut aussi faire des abribus reconditionnés sur place, tout neuf. Personne ne voit la différence. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, le maire de la ville, il me dit « Ah bah non, mais moi, je veux pas ce design-là. Je veux mon propre design. C'est mon héritage. » Il a envie d'avoir son abribus. Donc, en fait, eh ben, il va me demander une peinture spécifique, il va me demander un aluminium, moi, je veux pas du recyclé, le bois, ben non, le vandalisme. Et donc, moi, je suis en fait en train de travailler sur la conduite du changement et essayer de créer des nouveaux récits qui vont embarquer mes clients et qui vont rendre la sobriété désirable, parce qu'aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Et il faut savoir que les appels d'offres en France, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de critères ESG. Alors bien sûr, il y a la loi climat et résilience, donc ça va venir. Et franchement, ça c'est super et c'est une spécificité française. On peut faire cocorico, mais à quand en Europe et dans le reste du monde? Donc moi, je travaille avec, énormément avec ces clients pour essayer de rendre tous mes éléments, tous mes mobiliers, toutes mes solutions responsables acceptables pour eux. Et donc c'est aussi les citoyens. Et après, il y a les annonceurs. Les annonceurs, aujourd'hui, on a besoin de déconstruire aussi des stéréotypes. Et donc là, on a travaillé avec Actionnable, par exemple, pour leur expliquer les émissions carbone de l'univers des médias, des nouvelles technologies, qu'est-ce que c'est en termes de consommation énergétique, de carbone, et tous les impacts de la communication extérieure. Et je travaille aussi avec d'autres cabinets pour avoir une vision globale de mes externalités positives et négatives, donc notamment les impacts socio-économiques. Parce qu'à un moment, ça ne vend pas du rêve de toujours parler des externalités négatives. Il ne faut pas oublier que, par exemple, nous, notre chiffre d'affaires, 40%, on le reverse aux mandants, aux collectivités locales, aux aéroports, etc. Donc pour 1 euro généré chez JC Deco, on en crée 4 à travers le monde. Et pour un emploi JC Deco, j'en crée 10 à travers le monde. Donc ça, ce sont des études qu'on fait. Et à la fin, il faut changer l'histoire. Il faut raconter ça avec conviction et de façon simple pour embarquer les gens. Il faut des KPI, des objectifs. Mais surtout, il faut arrêter le discours verbeux que personne ne comprend. Et donc ça, c'est vraiment notre plus gros jalon. C'est comment, en interne comme en externe, tout le monde arrive à raconter avec conviction et de façon simple notre engagement et les leviers pour atteindre nos objectifs.
Très clair. C'est effectivement un sujet très intéressant qu'on ne va pas pouvoir creuser aujourd'hui malgré le manque de temps. Mais effectivement, ce sujet de rendre la sobriété désirable et en tout cas dans la manière de le communiquer, je crois que je fais un petit peu de pub puisque Mélissa demain anime une table ronde sur ce sujet de la communication. Et ça fait partie, à mon avis, une des dimensions
Des annonceurs, mais on a exactement le même sujet aussi.
Exactement. Une des dimensions de la conduite du changement. J'aimerais profiter des quelques minutes qui nous restent pour donner la parole au public, si jamais vous avez des questions. Merci infiniment pour votre participation, pour toutes les bonnes pratiques, tous les retours d'expérience que vous avez pu nous donner aujourd'hui. Est-ce que il y aurait des questions parmi le public?
La parole, parce que Fabrice Bonifay, je le connais bien, parce qu'il est chez Bouygues. Donc, je travaille avec lui au quotidien et en tant que membre du C3D aussi. On l'est tous. Et c'est vrai que les équipes RSE des différentes filiales de Bouygues qui travaillent avec Fabrice, on peut l'être parfois parce qu'on a envie d'un côté de transformer le modèle d'affaires, comme il le dit dans son livre et dans toutes ses interventions. Et de l'autre, si je prends le cas spécifique de TF1, je ne parlerai pas des autres filiales de Bouygues, mais le modèle d'affaires de TF1, restera, et de tous les médias en France, restera la publicité ou éventuellement l'abonnement. Mais on n'a pas d'autres modèles économiques. Donc c'est quoi l'avenir d'un média en France, à moins d'être un média public subventionné? C'est quoi l'avenir d'un média dans ce contexte? Et donc on est dépendant de nos annonceurs. Et donc on est dépendant de sociétés potentiellement polluantes, dans l'automobile, dans l'alimentation, etc., qu'on essaye d'embarquer via tous ces sujets de désirabilité d'un avenir différent, de leur expliquer en fait pourquoi la transition est importante, etc. Mais on est dépendant de la vitesse à laquelle eux vont faire cette transition. Et donc nous, on essaye de relayer dans nos contenus, sinon des récits plus désirables, à travers nos séries, à travers... C'est vrai que c'est compliqué et que des fois, nous, nos métiers, je vous cache pas qu'on a un ascenseur émotionnel permanent, je pense, dans nos jobs. En fait, quand on choisit ce métier-là, On est engagé, on est passionné, mais très honnêtement, on est d'un côté, on passe par, c'est génial, heureusement que je fais ce métier, je l'ai choisi parce que je vais changer le monde, et de l'autre, mais mon Dieu, je ne transformerai jamais rien, c'est une catastrophe. On passe notre temps à faire les deux. Et je pense que Fabrice, c'est pareil. Et en fait, heureusement qu'il est là pour nous secouer tous. Il fait des éditos sur TF1 Info tous les dimanches, qui sont quand même assez cash, hein, on peut le dire, et on les diffuse très ouvertement sur nos réseaux, etc. Parce qu'on a besoin aussi de ce regard critique et de donner la parole, quand on est bon journaliste, ou un peu à toutes les parties prenantes sur ces sujets-là. Mais oui, c'est dur.
Si. Je pense pour compléter, moi je me rappelle souvent où est-ce que j'étais il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je sortais d'école. Et j'avais choisi le développement durable et je peux vous dire que déjà trouver un emploi, c'était pas gagné. Des directions de la RSE, il n'y en avait pas beaucoup. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi ? Pourquoi et qu'est-ce que tu crois vraiment pouvoir faire ? Et donc j'ai commencé dans ce métier-là. Je me suis déspécialisée au bout de quelques années en me disant que finalement, je suis scientifique de formation, ingénieur agronome en particulier. Et en fait, on traitait à l'époque de ces sujets-là de manière très... conceptuel. On faisait encore beaucoup d'évangélisation à ces concepts-là. Encore une fois, mais il n'y avait pas de direction de la RSE. Mmh. On était contractualisé par la direction de la com. Mmh. On faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui volontiers du greenwashing et des projets paillettes. Et donc, j'en suis sortie en n'étant pas satisfaite. Mon côté scientifique n'était pas satisfait. J'en suis sortie, je suis repartie en conseil en stratégie pendant plusieurs années. Et je me suis dit, si je comprends comment on conseille en stratégie, en l'occurrence, j'ai pris un data-driven strategist, donc quelqu'un qui utilisait beaucoup la data au service de la strat. Et je me suis dit, si je comprends comment ils font pour parler à de la direction de la stratégie, du COMEX, et pour influencer aussi fort les décisions stratégiques d'une boîte et donc faire prendre des virages, et si je comprends comment faire ça, je le ramènerai dans la RSE. Et finalement, j'ai fait l'inverse, j'ai ramené la RSE dans le cabinet, on a monté une practice, et puis un jour, j'ai fini par passer de l'autre côté, côté client. J'avais pas prévu d'arriver dans la finance, et puis voilà. Et en fait, je me dis, mais finalement, pendant tout le temps où moi, je me suis déspécialisée, mettons 4 ans, heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas arrêtés. Et aujourd'hui, quand je regarde derrière, le chemin qu'on a parcouru entre il y a 10 ans, où je dis on partait de zéro, et aujourd'hui, on a quand même la CSRD qui arrive, je ne sais pas si vous savez ce que c'est quand même l'Europe qui, au-delà d'avoir décidé qu'on serait carbon neutral en 2050, premier continent, on a aussi décidé de se dire que les KPIs ESG, ils allaient être pour tout le monde, les mêmes pour tout le monde, obligatoires, je veux dire, c'est 600 KPIs qui arrivent, 600 indicateurs de ESG qui arrivent, qu'est-ce qui va se passer le jour où on pourra tous se mesurer et que les résultats ils seront publics et donc comparables. Et en fait, je pense qu'on est dans des évolutions incrémentales, donc laissant le temps au temps. Oui, par moments, j'ai aussi le sentiment d'être schizophrénique, il y a des moments où j'arrive, je ne vais pas vous dire que j'arrive au bureau en vélo en pleurant parce que je viens d'écouter une dernière conf de Jean-Co, mais c'est le cas. Et mais en fait, il y a des jours où je regarde derrière et je me dis finalement, one step at a time.
Je peux compléter aussi, mais je pense qu'il y a déjà plein de choses qui ont été dites. Donc, s'il y a une autre question... On peut...
Est-ce qu'il y a une autre... Oui.
Nous deux, mais... Alors moi, je peux vous expliquer un petit peu comment on fonctionne. On a un outil qui consolide tous les KPI ESG. Et donc ça, c'est piloté chez moi. Et la grande nouveauté, c'est qu'on a décidé que dans l'ensemble de nos filiales, c'était le DAF qui allait être responsable de la donnée. Parce qu'on voit bien qui est expert de la donnée aujourd'hui dans nos entreprises, ce sont les directeurs financiers. Et donc, qui fait aussi le reporting sur la performance de l'entreprise ? Encore une fois, le directeur financier. Donc, à travers un seul outil, l'ensemble des filiales ont la capacité d'avoir un dashboard, effectivement, qui leur permet d'avoir leur objectif local, l'atteinte de leur objectif de façon trimestrielle et une consolidation annuelle. Et ça me sert aussi pour les objectifs variables de rémunération des dirigeants, des collaborateurs. Et moi, ça me permet d'avoir une consolidation globale pour le pilotage au niveau du directoire ou COMEX en fonction de l'organisation. Et aujourd'hui, le gros chantier, c'est comment j'intègre la donnée carbone dans cet outil-là. parce qu'on le sait bien. Et en fait, tout se parle, parce que j'ai déjà des éléments de consommation énergétique, j'ai déjà des éléments de DP qui sont consolidés dans cet outil-là. Donc l'enjeu, c'est effectivement de définir où est la donnée maître et où est la donnée qui va être consolidée sur un beau dashboard en DataVis, parce qu'on le sait bien, faut envoyer des paillettes hein, quand même, encore une fois, pour qu'on ouvre le rapport. Hein. Donc faut pas négliger cette partie-là. Donc effectivement, l'idée, c'est vraiment de définir la gouvernance. Et moi, je recommande fortement de consolider toute la donnée au même endroit. Parce qu'à un moment, il ne faut pas se voiler la face. Le DAF ou le DG, il ne va pas ouvrir trois outils différents pour savoir où il en est. Oui, enfin, je ne suis pas là forcément pour faire la promotion, mais nous, on est par exemple sur SIA, et on consolide toute cette donnée-là. Et sur le carbone, on est en train de tester une solution, mais pour le moment, on est vraiment en train de la déployer à la maison. Donc, je ne veux pas m'engager et faire la promotion d'un outil que je n'ai pas encore véritablement testé.
Alors, je ne sais pas combien de temps on doit libérer la salle, je ne sais pas. On va peut-être prendre une dernière question. Oui, allez-y.
Moi, je vais répondre très rapidement, après je te laisse. Nous, on le prend sous le prisme du contenu. Donc, pour le coup, beaucoup via Ushuaïa TV, qui est quand même la première chaîne nature en France depuis des années. Et on dit explicitement, c'est vrai que nous, on a quand même peu d'impact direct en tant que bureau, en tout cas en tant que société, sur la biodiversité. La biodiversité, on a assez peu sur nous. Donc, on regarde les aléas climatiques, on regarde tout ça. Mais sur la biodiversité, on préfère utiliser notre rôle d'influence et donc se dire comment on relaie toutes les problématiques de la biodiversité aujourd'hui dans les JT et dans les contenus Ushuaïa ou les documentaires environnement sur TMC, plutôt que l'impact réel, en fait, qui est chez nous, en l'occurrence, assez faible chez TF1. Peut-être différent pour...
Alors, en ce qui me concerne, je suis aussi un média, donc je ne suis pas une entreprise logistique, donc je n'ai pas une énorme empreinte en termes de biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire et qu'on ne doit pas s'engager à avoir une politique. Donc, il y a toute la partie mesure de notre empreinte en termes de biodiversité. Ça, c'est un premier pan de notre stratégie, mais c'est surtout comment on fait partie de la solution et quelles sont les opportunités qu'on peut développer avec nos clients, parce qu'encore une fois, on est présent dans les villes. Mmh. Et donc, nous, l'idée, c'est de développer des mobiliers qui vont permettre de recréer de la biodiversité au sein des villes avec un parcours de pas japonais pour vraiment recréer un système de biodiversité au cœur des villes. Et donc, nous, on travaille main dans la main et on cherche des entreprises, enfin, plutôt des entreprises, ça, on en a maintenant, mais plutôt des villes qui ont envie de déployer ces pilotes-là. Donc encore une fois, moi, je dois travailler sur mes clients, leur donner envie et qui nous permettent de travailler ensemble pour trouver des solutions.
Et ben, effectivement, merci, je vais compléter. Merci pour la question. Je pense que ça a été longtemps de l'oublier. On a 20 ans de retard sur la biodiversité par rapport à ce qu'on a sur le carbone. L'avantage, c'est qu'on a quand même appris pas mal de choses avec le carbone et qu'on va pouvoir aller, j'espère, plus vite sur la biodiv. Moi, j'aurais une réponse en deux temps. La première, c'est effectivement comment est-ce qu'on évalue son... Déjà, comment on prend le sujet et comment est-ce qu'on évalue son impact sur la biodiversité. Une fois que j'ai dit qu'il y avait 20 ans de retard, on peut quand même faire des choses. La première, c'est qu'on peut faire quelque chose qui s'appelle une évaluation qualitative, un peu high level, en fait high level parce qu'elle est sectorielle, de son impact et de ses dépendances vis-à-vis de la biodiversité. Il y a des outils qui sont gratuits, qui existent, notamment avec Encore. Tout le monde peut le faire. Nous, chez Euraseo, par exemple, on l'a fait sur deux de nos fonds, qui sont des fonds généralistes, qui avaient des entreprises quand même de taille suffisamment mature. En fait, c'est du small, mid ou du mid-large, donc petites, moyennes, grandes entreprises, pour voir leur impact, on va dire, macro. Et une fois qu'on a fait ça, les plus impactantes ou impactées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une empreinte biodiversité. Donc l'empreinte biodiversité, c'est vraiment le pendant de ce que vous voyez en empreinte carbone. Ça, et du coup, l'intérêt, c'est qu'en fait, ça va utiliser aussi beaucoup de données physiques. Donc les mêmes données qu'on utilise pour faire une empreinte carbone, on va les utiliser pour faire une empreinte biodiversité. parler. Donc nous, on l'a fait pour une de nos participations qui utilise beaucoup de, qui est très dépendante de l'amont agricole. Et ben, de la même façon qu'on avait calculé son empreinte carbone sur ces produits-là, en fait, on a repris les quantités achetées, les provenances, etc. Et après, on peut recalculer l'impact sur la biodiversité. Hein, c'est une empreinte, c'est quantitatif. Voilà, ça reste un travail qui est assez conséquent. C'est vraiment à l'image de l'empreinte carbone. Donc ça va prendre plusieurs mois. Il faut beaucoup de données. Les méthodologies sont encore en train d'avancer. Vous avez plusieurs acteurs qui proposent des méthodologies, des plus solides que d'autres, donc à faire attention. Et là, par contre, on arrive comme pour le carbone avec une métrique unique, qui est, donc le carbone, c'est le CO2 équivalent. Côté biodiversité, ça va être le MSA kilomètre carré. Le MSA kilomètre carré, c'est mean abundant species kilomètre carré. Autant vous dire que c'est quelque chose qui est très abstrait. Ça a le mérite d'être une métrique unique, mais c'est abstrait et ça ne se pilote pas. Et donc une fois qu'on a fait ça, c'est un peu comme le bilan carbone dans le sens où on voit où sont les grands impacts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, à partir de là, vous pouvez, mais c'est un peu ce qu'on disait, ce que tu disais sur peu importe de savoir s'il y a 5% près, c'est le bon chiffre. Voilà où sont les grands impacts. Est-ce qu'ils sont dans ma chaîne de valeur? Est-ce qu'ils sont sur tel produit? Est-ce que d'ailleurs, parmi les produits, dans mon top 5, c'est des produits qui sont hyper impactants en valeur unitaire, mais j'en ai pas beaucoup de volume, ou c'est parce que c'est des produits qui sont finalement pas très impactants unitairement, mais dont je commande des grands volumes. Et quand on a ça, on peut se demander, bah, voilà, est-ce que je fais de l'éco-conception? Est-ce que je remplace des produits? Est-ce que je travaille avec mes agriculteurs sur des logiques? Donc là, tout à l'heure, il y avait des conférences sur la logique d'agriculture régénérative, et donc je vais changer mes pratiques agricoles. Est-ce que je fais d'ailleurs tout en même temps? En général, pas mal. Et finalement, pour les entreprises, le deuxième niveau de réponse, c'est que toutes ne s'y prêtent pas ou toutes ne s'y prêtent pas au même endroit. Je vous invite vraiment à regarder ce qui se passe en matière de... Il y a des conférences extraordinaires de... Pour ne pas lui faire de la pub, Christophe Sempels, qui parle aussi de, justement, les différentes... levier d'action pour une entreprise régénérative. Toutes celles qui sont extrêmement dépendantes de l'amont agricole, bah c'est facile. Enfin, de l'amont agricole. Toutes celles qui sont dépendantes de la nature pour produire leur business ou qui ont un impact direct, bah c'est facile. Vous voyez que vous travaillez sur l'endroit où vous avez un impact. Maintenant, toutes les entreprises qui ne sont pas connectées directement au vivant, en fait, vous avez pas mal de leviers d'action de par votre sourcing, de par vos procédés industriels. Je vous donne un exemple. Beaucoup d'entreprises productives utilisent de l'eau. Et ben, l'eau, vous pouvez choisir, au lieu de le renvoyer dans l'assainissement collectif, bon, quand vous en avez un, à la limite, ça part, mais quand vous n'en avez pas, vous pouvez faire de la phytoépuration. Et la phytoépuration, vous pouvez la faire avec des bambous qui, eux-mêmes, seront utilisés dans l'alternative énergétique. Donc, en fait, il y a voilà, les process, il y a aussi mes chaînes de valeur. Donc, il y a plein d'autres endroits pour une entreprise qui n'est pas connectée au vivant directement. Elle a quand même encore beaucoup de leviers pour agir. En fait, c'est la même réponse que pour le carbone, c'est commençons quelque part, il faut y dédier du temps, des ressources, et petit à petit, apprendre, faire, répliquer, dupliquer.
Est-ce que ça a répondu à vos questions, à votre question ?
Pardon, et du coup, je complète. Juste, en fait, c'est vrai que c'est intéressant. À partir du moment où on commence à être un peu mature en carbone, c'est intéressant de, si on a un impact biodive, allons-y, lançons-nous dans la biodive, parce qu'on peut mutualiser, pas tout, mais on peut mutualiser en partie l'effort de collecte de la data pour faire à la fois l'empreinte biodive et à la fois l'empreinte carbone.
Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre présence et vos partages. Merci à vous aussi. Et puis bonne fin de journée. À bientôt.